être, c'est-à-dire quelles sont les obligations réciproques qu'il peut y avoir dans une relation de type employeur-employé ou de type à l'origine maître avec son esclave. On s'est aperçu que là-dedans, il y avait effectivement non seulement obligation, un souci très fort de la dignité de l'autre, de celui qui est dans la relation d'agrégation, d'asservissement, de salariat, et que ça va bien au-delà dans l'invitation que vous fait la Guémara à prendre les choses beaucoup plus au fond et à se sentir responsable, d'aider l'autre aussi à conquérir sa liberté. Aider celui qui est asservi à se libérer. Et ce travail qu'on a tous également à faire. Et c'est pour ça que ce cycle, en réalité, si que dans le temps, il a coïncidé avec la fête de Pessah. On a interrompu effectivement juste pour la fête de Pessah. Et donc, on est effectivement dans cette problématique de servitude, de liberté. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre. Qu'est-ce que le travail, quel rôle il joue dans cette articulation, dans ce couple servitude-liberté. Alors on va y réfléchir d'une nouvelle manière ce soir. Donc il va terminer ce second cycle de notre séminaire, puis il y en aura d'autres qui vont suivre. Alors, dernière chose, pour ceux qui suivent ce séminaire, vous pouvez retrouver les conférences mises en ligne en écoute sur le site web de l'AMRH et j'espère qu'à la fin de l'ensemble de ce séminaire, on pourra faire une publication qui restituera la synthèse l'ensemble de ces sites. Voilà. Donc, on pourra faire ce cadre-là et maintenant, je crois qu'on va passer tout de suite la parole à Kaïs.
Merci. Les derniers souvenirs de philosophie que j'avais sur le travail, c'était que la fameuse phrase de Marx que la première chose qui caractérise le travail, c'est l'aliénation. Savoir qu'on est toujours dépossédé des fruits de son travail. D'où la fameuse boutade que le travail ne doit pas être à chacun selon son travail, mais à chacun selon ses besoins. Donc c'est ça dont il va s'agir dans ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Alors c'est vrai que tout part d'un verset. Ce verset, je vous le cite pratiquement de mémoire, il dit qui lit Béné Israël Avadai. Avadim, Avadim hem, Asherotziti otam, Meret Misraim. Parce que, littéralement, parce que pour moi, les enfants d'Israël sont des serviteurs, ce sont mes serviteurs, parce que je les ai fait sortir d'Égypte. On analysera ce verset plus loin parce que c'est effectivement la clé de ce qui va se passer ce soir. Mais laissez quand même de côté que, enfin, le point intéressant, c'est que dans ce verset, il y a une redondance. Il y a deux fois le mot avadim. Il y a marqué qu'il lit Bnei Israël avadai, avadim, avadai em. Il y a marqué deux fois. Pourquoi il y a marqué deux fois serviteur? Ça, c'est la question vraiment sur le verset. Ce qui est intéressant, c'est que ce verset dans la Gemara qui nous occupe ce soir, il vient en contrepoint d'une discussion halakhique assez technique. Alors, on va essayer de ne pas être trop technique, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui vient faire ce verset. Comment est-ce que finalement il va venir comme point d'orgue d'une discussion halakhique? Donc si c'est trop technique, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc si on dit que le travail, c'est une appropriation, Dans l'appropriation, il y a deux termes. Il y a un terme qu'on va appeler l'objet, ce que je veux m'approprier. Et il y a le sujet, c'est-à-dire celui qui va s'approprier la chose. J'ai pas de problème pour le moment à définir le travail comme si, de cette manière-là, à savoir un rapport entre un sujet et un objet. Quelqu'un qui va effectuer une action sur un objet pour se l'approprier ou pour modifier. En tout cas, dans notre, ce qui nous intéresse ce soir, c'est le fait que je dois m'approprier cet objet, c'est-à-dire que je veux qu'il rentre dans mon domaine, je veux qu'il m'appartienne. Pour mieux comprendre cette histoire-là, on va rajouter un troisième terme, c'est-à-dire un destinataire de l'appropriation. Donc on a trois termes. On a un objet, quelqu'un qui se l'approprie, et quelqu'un pour qui l'appropriation est destinée. Donc ça, c'est le premier point qui va nous servir de trame. Donc notre Gemara parle d'une Mishnah qui est dans Baba Metzia 9b et qui indique la situation suivante. Aya rochev al gabe behema veraha et ametzia ve'amar lechavero tnali natla ve'amar ani zachitiba zachaba. Donc la Recha, c'est-à-dire le premier élément de notre Mishnah, décrive le cas suivant. Donc, Aya Rochev Al-Gabe Be'ema, on a une personne qu'on va appeler le cavalier, qui chevauche un animal. Vera est un Metzia, et il aperçoit une Metzia. Une Metzia, ça va être notre objet. C'est-à-dire, c'est un objet qui n'appartient à personne, donc qui est digne d'être approprié. Et dans le cas de la Metzia, n'importe quelle personne qui vient en premier et qui la prend peut se l'approprier, et donc simplement le fait qu'il la lève, ce qu'on appelle Agba, qu'il la fasse rentrer dans son domaine, va faire qu'il en devient propriétaire. Maintenant, celui qui est sur le cavalier, celui qui est sur le cheval, ou la BMA, dit la Gemara, il dit à un autre qui s'appelle son ami, donne-moi cette chose-là. Autrement dit, il manifeste son désir d'appropriation. Il se trouve que le piéton, Natla, il prend l'objet, Ve'amar Anizakritiba, et il dit, il est à moi. Donc celui qui était vu au départ comme celui qui allait faire l'appropriation, il décide de dire, comment dire, d'interrompre l'intermédiaire, c'est très important cette chose-là, pour dire cet objet m'appartient, il est à moi. Donc là, la Mishnah dit, Zahaba, il n'y a pas de problème, il lui appartient. Donc mon intermédiaire entre l'objet et le destinataire, à un moment, décide de ne plus être intermédiaire. Donc si on dit que l'objet il est 1, l'intermédiaire il est 2, le destinataire il est 3, et bien le 2 se substitue au 3. Il dit il est à moi. Deuxième cas rapporté par la Mishnah, Im Mishenatna lo amar anizachiti batechila lo amar klum. Maintenant, si une fois qui le lui a donné au cavalier, il dit, donc les mots exacts de la Gemara, Anizachitiba Techila, j'en étais propriétaire, Techila, avant toi. Il était déjà à moi, Lo Amar Klum, il n'a rien dit. Le Lo Amar Klum, simplement, ça veut dire que dans sa parole, il n'y a rien, il ne s'est approprié rien du tout. Et l'objet appartient effectivement au cavalier. Donc tout de suite, le problème de l'appropriation, c'est une appropriation qui est toujours médiane par rapport à un troisième terme. Donc la Gemara, pour essayer de comprendre cette question-là, ramène, comme c'est son habitude, une autre Mishnah. Nan Atam, Micheliket et Apea, celui qui ramasse l'Apea, Veamar Arezo Leploni. Ani, Rabbi Lezeromer Zachalov, Chamim Omrim, Yitinena Leani. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah, maintenant qu'on va étudier, pose la même question, mais va opérer deux modifications. La première modification, c'est qu'à la place d'avoir un objet neutre, c'est-à-dire un objet qui n'appartient à personne et que chacun peut s'approprier, on va avoir un objet destiné. C'est quoi un objet destiné ? C'est une PA. C'est quoi la PA ? Simplement, c'est que la Torah indique que le propriétaire d'un champ doit laisser une partie du champ non glané pour que justement des pauvres puissent venir glaner. Techniquement, ça veut dire que seul un pauvre peut se rendre propriétaire de cette PA-là. Quelqu'un qui viendrait, qui ne serait pas pauvre et qui la prendrait, il ne peut pas s'en rendre propriétaire. Donc autrement dit, là du coup, effectivement, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas d'appropriation possible. Donc, quel est notre cas ? On a effectivement une PA, et quelqu'un y prend cette PA, et il dit, Ve'amar, Arezo Leploniani, je la prends pour un tel qui est pauvre. Donc autrement dit, maintenant, je veux m'approprier quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors c'est très intéressant ce diyoukla, parce que tout va se jouer au niveau halakhique sur cette question-là. C'est est-ce que je peux m'approprier quelque chose pour quelqu'un d'autre ? On ne parle pas du cas où je me l'approprie, temps numéro 1, et temps numéro 2, je la donne. Ça c'est clair. Je me l'approprie pour moi, donc c'est moi qui fais l'acte d'appropriation, et je l'approprie pour mon tiers. Rabbi Eliezer Omer Zachalo. Rabbi Eliezer, il dit oui, il n'y a pas de problème. Je peux faire ça. Je peux effectivement m'approprier quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vechamim Omrim. Il n'a rien fait. L'acte d'appropriation n'a pas marché. Et donc, cet objet, la PA, redevient ce qu'elle était, à savoir à la disposition du premier ani qui vient. Sur cette Mishnah qu'on a ramenée pour expliquer la Mishnah qui était là, vont avoir maintenant deux avis sur comment interpréter cette Mishnah. Un d'après Oula et un d'après Rav Nachman. Amar Oula. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Oula ramené au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Machloket me'ashir le'ani. Ce dont on discute ici, c'est pas d'un pauvre qui veut s'approprier l'objet pour un autre pauvre. C'est d'un riche qui veut s'approprier cet objet pour un autre pauvre. Donc autrement dit, c'est un riche qui s'approprie la PA, technique, enfin, ça simplement, mais il le dit, je l'approprie moi pour lui. Donc à partir du moment où je l'ai approprié, elle appartient de facto à ce pauvre-là qu'il a désigné, qui n'est pas au courant, mais ça c'est pas un problème, parce qu'on a le droit de faire un cadeau à quelqu'un, on a le droit d'être zoché les michou, même s'il n'est pas là. Donc, quelle est la discussion ? La discussion, c'est que des Rabbi Elazar Sabar, que Rabbi Eliezer qui a dit que c'était possible, il a dit que c'est possible à cause de quelque chose qui s'appelle le Migo. Le Migo, c'est une figure à l'Arique qu'on va traduire par « puisque ». Mais en fin de compte, c'est un changement de statut. Cet homme-là, il est riche. Il est riche, donc il n'est pas destinataire de la PA. S'il la prend, il ne peut pas la prendre. Ça ne marche pas. L'acte d'appropriation ne marche pas. Mais maintenant, il peut décider de rendre tous ses biens, de donner tous ses biens, de rendre tous ses biens efker, c'est-à-dire il s'en dessaisit. Donc du coup, il devient pauvre. Devenant pauvre, il peut s'approprier la PA. Et pouvant se l'approprier, il peut effectivement la dédier à quelqu'un d'autre. Et Chachamim disent, ça il ne peut pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est un seul migot, c'est de dire, étant pauvre, je peux m'approprier la chose, et pouvant m'approprier la chose, je peux la donner à quelqu'un d'autre. Première interprétation de la deuxième Mishnah pour expliquer la première. Sur ce, d'accord, je vais pas. Sur ce, Rav Nachman dit pas du tout. La discussion qu'on a dans la Mishnah qui parle de PA, c'est pas d'un riche qui veut s'approprier quelque chose pour un pauvre. On a bien noté entre parenthèses que pour que le riche s'approprie la chose, il doit d'abord se désapproprier ce qu'il a. Il se désapproprie ce qu'il a. On lui demande même pas de le faire. C'est que simplement il pourrait le faire. Donc un riche, c'est un pauvre potentiel. Donc potentiellement il est pauvre. Et si potentiellement il peut devenir pauvre, alors effectivement il peut le donner à quelqu'un d'autre. Et Rav Nachman va maintenant dire pas du tout. Ça, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'un pauvre qui veut donner à un autre pauvre. Et donc Rav Nachman, maintenant, dans la suite de la Gemara, et c'est ça qui va être l'essentiel de la Gemara, va ramener une hypothèse et qui va défendre Mordicus dans tous les mots de la Mishnah. À savoir que je ne peux pas m'approprier quelque chose pour quelqu'un d'autre. Si je m'approprie quelque chose, je me l'approprie à moi. Je ne peux pas me l'approprier pour un tiers. Donc, autrement dit, aucune possibilité pour l'intermédiaire d'être finalement intermédiaire. À aucun moment dans la chaîne de l'appropriation, quelqu'un peut travailler pour quelqu'un d'autre. Ce que je fais, c'est pour moi. Je peux m'approprier la PA, elle est à moi. Est-ce que le fait que je puisse me l'approprier fait que je peux la donner à quelqu'un d'autre? Ça, ça ne marche pas. Donc autrement dit, techniquement, Rav Nachman n'entend pas le migot. Il ne veut pas entendre le migot. Et donc, il va effectivement se battre Mordicus avec les arguments de Oula, de la première partie, pour dire jusqu'au bout qu'on ne peut pas effectivement, je répète parce que c'est ça le nœud, je ne peux pas m'approprier quelque chose pour quelqu'un d'autre. Comprenons bien cette chose, c'est que qui est quand même très 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 loin de notre mode de pensée. On comprend chacun l'appropriation. Je comprends qu'une fois qu'une chose m'appartienne, je peux la donner à quelqu'un d'autre. Mais m'approprier quelque chose pour quelqu'un d'autre, ça déjà, ça fissure tout le discours qu'on peut avoir dans le langage philosophique sur le travail. Je ne pense pas que j'ai déjà entendu quelque chose pareil. Pas possible. Parce que c'est complète. C'est que je suis zoché de la chose pour quelqu'un d'autre. Et pourquoi je peux le faire ? Parce que je pourrais effectivement m'en rendre propriétaire. Donc autrement dit, on a notre élément central qui est la personne qui va s'approprier quelque chose pour un deuxième. Ça va ? C'est pas trop technique pour le moment ? Donc, maintenant, l'Agmara va essayer preuve après preuve. Donc là, ça va devenir encore plus technique et peut-être que je vais vous épargner ça un petit peu, parce que je dois beaucoup à Rav Lévi, parce qu'on a pris Rav Alain Lévi, parce qu'on a pris ça dans tous les sens, etc. Et même il y a beaucoup de mes farchim qui se posent des questions sur cette histoire-là. Mais en tout cas, dans l'argumentation, donc je reprends. La Mishnah dit, le cavalier dit au piéton, tu vas t'approprier, tu vas me donner l'objet. Le piéton dit, je le prends pour moi. D'après l'avis de Oula, il n'y a pas de problème. C'est qu'effectivement, il a le droit de se l'approprier. D'après l'avis de Rav Nachman, c'est que de toutes les manières, il ne pouvait pas se l'approprier pour le cavalier. C'est comme ça que lui, il lit la Mishnah. Donc c'était impossible. Deuxième avis, deuxième élément de la Mishnah, une fois que maintenant cet objet est entre les mains du cavalier, alors là, effectivement, l'autre ne peut pas revenir sur le fait et dire maintenant je me le réapproprie rétroactivement. En gros, c'est ça la discussion. Et maintenant, donc pour arriver à notre sujet, pour pousser Rav Nachman dans ses retranchements, on va lui objecter une preuve. Et cette preuve est la suivante. Itibé Rabba le Rav Nachman, donc c'est un peu plus loin dans la Gemara. Metsial, Metsiat Poel le Atzmo. Un ouvrier, donc quelqu'un qui travaille pour un patron, et qui va trouver quelque chose, cette chose-là, elle est à lui. De quoi parle-t-on? Bamed varim amurim, bizman she'amar lo ba'al ha'bayit nakesh imi, ayom ador imi ayom. Le patron lui a dit, tu vas déboiser, tu vas enlever des mauvaises feuilles, ou tu vas clôturer mon champ. Donc, il est embauché pour une mission particulière, et au cours de sa mission, il va trouver quelque chose pour laquelle il n'est pas payé. Techniquement, c'est que comme il est payé pour faire cette mission-là, il va prendre l'objet, il dit « il est à moi », parce que de toutes les manières, je ne suis pas payé pour ça, mais je rembourserai au patron le temps que j'ai pris pour prendre cette métier-là, parce que je l'ai pris sur mes heures de travail. Donc ça c'est pas très grave. Aval, Amarlo, Asi, Mimelachayom. Maintenant, si il lui dit, je t'embauche pour tout ce que tu feras pendant la journée, Ayom, Metsiato, Shel Balabait, ou l'objet appartient au patron. Donc, Rav Nachman, tu fais quoi avec ça maintenant? J'ai une preuve comme quoi je peux m'approprier quelque chose pour quelqu'un d'autre. Amarlo Shani Poel. Il dit le cas de l'ouvrier, il est complètement différent. Pourquoi? De yado keyad baalabait. Parce que sa main, elle est comme la main du patron. A savoir que il est complètement. L'ouvrier va devenir, comme va expliquer beaucoup de Mefarshim, l'ouvrier, il est l'extension du patron. C'est la main allongée du patron. Et donc, quand il prend la chose, effectivement, il la prend au compte du patron. Et concrètement, ça veut dire que j'ai quand même pris quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, comment est-ce que tu vas t'en sortir de cette histoire-là? Amarle kol kama yachol arzorbo afilu bechatsi ayom ve'amara afpoel yachol arzorbo afilu bechatsi ayom. Et de toutes les manières, l'ouvrier, il peut à n'importe quel moment interrompre son travail. Vous suivez ou vous êtes perdu là? L'ouvrier peut à n'importe quel moment interrompre son travail. Donc à n'importe quel moment, il dit, même si effectivement il est embauché pour tout faire, à n'importe quel moment, il peut dire, j'arrête de travailler. Et donc du coup, là, il peut encore plus se rendre possesseur de la chose. Amarle kol kama de la adarbe keyad balabait ou. Mais de toutes les manières, tout le temps qu'effectivement il travaille, il est effectivement une extension, il est comme la main du patron qui a darbé. Donc, Rav Nachman, il a un problème maintenant. Il va dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment est-ce que je vais pouvoir expliquer que dans le cas de l'ouvrier, je peux m'approprier quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas là? Pour quelqu'un qui n'est pas moi. Alors il lui dit, Tama Acharina. Donc c'est ça maintenant ce qui les intéresse. Ça, hein, c'est pour autre chose. Le fait qu'il puisse à n'importe quel moment se déposséder de la mission qu'il a, ou effectivement quitter son statut de poël, quitter son statut d'ouvrier, c'est qu'il lit Béné Israël Avadim Avadayem Velo Avadim la Avadim. Parce que, il est marqué dans la Torah, vous êtes, parce que à moi les Béné Israël, vous êtes mes serviteurs, ce sont mes serviteurs et pas des serviteurs de serviteurs. Donc autrement dit, à n'importe quel moment, je peux rompre le contrat que j'ai avec le patron. À n'importe quel moment, je peux effectivement dire je ne travaille plus pour quelqu'un. À n'importe quel moment, je peux dire je ne suis plus un moyen. Pourquoi? Parce que je suis le serviteur de quelqu'un d'autre. Et uniquement pour cette raison-là, et qui a effectivement des conséquences à l'Afrique. La première conséquence à l'Afrique, c'est que du coup, quelqu'un qui se vendrait complètement à Eved, il transgresserait ce qui est marqué dans ce verset-là. Maintenant, l'ouvrier, lui, ne se vendant pas complètement, alors lui, il peut effectivement, il peut considérer à dire, je suis toujours serviteur, mais je peux à n'importe quel moment arrêter. Donc sur ça, Rav Nachman, il est quand même d'accord. Donc c'est ça qui nous intéresse maintenant. Rav Nachman est quand même d'accord que mis à part ce cas-là, je peux effectivement me rendre, je ne peux pas m'approprier quelque chose qui n'est pas à moi, sauf si je suis employé par quelqu'un. Notez simplement pour commencer la discussion qui va maintenant nous intéresser. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je refuse d'être l'intermédiaire, la possibilité que j'ai de ne plus être un intermédiaire dans le processus d'appropriation vient simplement du fait que je sois employé par un patron beaucoup plus haut, qui est le maître du monde. C'est ça. Donc je peux à n'importe quel moment interrompre cette chose-là en disant il y a un patron plus haut que moi. Et par rapport à ce patron, je suis aussi Eved. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre cas précis de la Gemara, le fait de se déclarer comme Eved de Dieu en disant je ne suis plus par rapport au patron, je suis Eved de Dieu, c'est ça qui va me permettre de me rendre propriétaire de la métier. Ce n'est que parce que je suis Eved, d'un patron beaucoup plus haut, que je peux du coup devenir propriétaire. Parce que sans ça, je ne pouvais pas. Juste pour terminer la Gemara, avant de rentrer après dans des questions un peu plus compliquées, on va dire. Amar Rabbi Chiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Amagbiya Metzia la Chavero Kana Chavero. Donc, effectivement, celui qui va soulever un objet pour son ami lâche, il appartient à son ami. Ve'im Tomar Mishnatenu de Amar Teneli Velo Amar Zachali. Et si maintenant tu m'objectes notre Mishnah qui dit, mais quand il lui a dit, effectivement, donc d'après Rav Nachman, quand il lui a dit prends-moi l'objet et que l'autre il a dit il est à moi, il dit ça c'est pas pareil. Il lui a pas dit prends-le pour moi, il lui a simplement dit donne-le-moi. Donc autrement dit, sa volonté n'est pas encore incluse dans la volonté du cavalier. À partir du moment où l'objet appartiendra au cavalier, il est à lui. Tant qu'il appartient pas au cavalier, l'autre peut à n'importe quel moment se l'approprier pour lui. Donc, Ça, c'était le premier défrichage. J'espère que j'ai pas été trop confus. Donc, on va récapituler. Avis de Oula, je peux me rendre propriétaire pour quelqu'un d'autre d'un objet. Pourquoi? À cause de ce migo. Puisque je peux m'en rendre propriétaire, je peux le dédier à quelqu'un d'autre. Avis de Rav Nachman, c'est impossible, sauf dans le cas de l'ouvrier. Donc c'est ça qu'il faut retenir maintenant. Et l'employé peut à n'importe quel moment décider de ne plus être employé à cause effectivement de notre fameux verset où effectivement nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Ce que je vais essayer maintenant de voir avec vous, c'est de comprendre qu'est-ce qui motive ces deux avis et qu'est-ce qui va effectivement être intéressant quant à la notion d'appropriation dans le travail. Et c'est ça qui va nous permettre après de comprendre le verset et de comprendre effectivement pourquoi est-ce qu'il intervient à ce moment-là. Donc on va dire que celui qui veut s'approprier l'objet, on va l'appeler un élément particulier. On va l'appeler un prat. Celui pour lequel l'objet est destiné, qui est donc soit plus haut que lui physiquement parce qu'il est sur le, parce qu'il est sur le cheval et qu'il a vu ce que l'autre n'a pas vu, ou parce que effectivement c'est son patron d'après l'avis de Oula, et on verra comment ça marche par Rav Nachman, celui-là, on va l'appeler le klal. Et toute la question qu'on a, c'est comment une volonté particulière peut s'inclure dans une volonté plus grande et va permettre le transfert de propriété entre le prat au klal. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est-à-dire, le piéton, c'est un prat, il est particulier. Et maintenant, l'autre lui dit, tu vas prendre l'objet pour moi, selon d'ailleurs tous les avis. La question qu'il a, c'est à quel moment il peut décider, lui, de dire, moi, je ne veux pas inclure ce que je suis, ni ce que je peux être dans toi. Je veux travailler pour moi. À quel moment ce prat-là peut s'inclure dans un klal? L'opinion de Oula, qui va être d'ailleurs retenue par la halakha, c'est de dire, c'est parce que je suis un prat, parce que je peux m'approprier l'objet, que je peux en faire le transfert de propriété immédiat. C'est ça le migo. Parce que je peux être propriétaire de l'objet, alors je peux le transmettre. Donc je travaille pour quelqu'un, mais c'est parce que j'ai une volonté, parce que j'ai un pouvoir d'appropriation, que je peux le transmettre à l'autre. Donc c'est quoi un travailleur? C'est quelqu'un qui s'approprie le monde pour quelqu'un d'autre. Tout en restant qui il est, tout en ayant son propre travail sur le monde. Il se l'approprie à lui. C'est parce qu'il peut se l'approprier lui qu'il peut effectivement le donner à l'autre. Enfin, pas le donner, c'est qu'il peut effectivement l'approprier pour l'autre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va commencer maintenant à comprendre notre verset. Si moi je décide de rompre le contrat avec le patron, c'est simplement pourquoi? Parce que je peux désigner un autre patron. Et que donc, en tant que prat, mon patron qui était le klal, je le substitue à un klal plus grand. Il était évident que de toutes les manières, même étant salarié, mon patron étant lui aussi assujetti aux lois de la Torah, il est aussi lui un klal inclus dans un autre klal. Mais ça, c'est pas grave. Ce qu'on va appeler un klal benoni, techniquement. C'est-à-dire, c'est un intermédiaire. Maintenant, ce que veut entendre Rav Nachman, c'est que ça, c'est impossible. Il y a deux possibilités. Soit je suis un prat, et quand je m'associe, et quand je m'approprie l'objet, je me l'approprie pour moi. Ou soit j'ai annulé mon prat dans la volonté du patron, et à ce moment-là, parce que je ne peux pas me l'approprier pour moi, je peux me l'approprier pour lui. C'est ça le fond. Parce que l'ouvrier, lui, il ne peut pas se l'approprier. Il ne peut se l'approprier que si effectivement il rompt le contrat. Donc à ce moment-là, il redevient un prat. Il redevient une individualité, une subjectivité si on veut. Et à ce moment-là, il peut le prendre. Mais tant qu'il travaille pour le patron, c'est ça, il est keyad balabait, il n'a plus de possibilité de s'approprier l'objet. Alors à ce moment-là, même d'après l'avis de Rav Nachman, il n'y a pas de problème. Il peut s'approprier pour quelqu'un d'autre, parce que pour lui-même, il ne peut rien s'approprier. Donc l'idée de Rav Nachman, c'est que tant que je suis un prat, tant que je m'exprime comme quelqu'un avec une possibilité d'appropriation, il y a la possibilité de m'approprier quelque chose, c'est-à-dire de travailler particulièrement sur le monde, je ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Ah, si maintenant je décide d'annuler cette chose-là, alors effectivement, là du coup, quand je m'approprierai, mais je m'approprierai pour l'autre, mais il n'y a pas de migo. Parce que le migo, c'était de dire, parce que tu es un prat, tu peux donner à un klal. C'est ça le migo. Que c'est clair jusque-là. Maintenant, notre verset, il vient dire quoi ? Notre verset, il vient dire que mon inclusion du prat dans le klal, elle peut s'interrompre à n'importe quel moment, parce que de toutes les manières, ce klal-là, il est bénoni par rapport à un klal plus grand. Et ça, d'après tous les avis. Maintenant, c'est intéressant de comprendre, ça veut dire quoi ? Quand j'ai lu la Mishnah la première fois, je me suis dit, on parle de désir. C'est-à-dire que le cavalier voit un objet, il le dit au piéton, le piéton ne l'avait pas vu, et il se dit, mais après tout cet objet, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas pour moi ? Pourquoi est-ce que je ne le prendrais pas pour moi ? Quelle possibilité j'ai de le prendre pour moi, c'est vrai. Pourquoi il ne serait pas à moi ? Pourquoi il est à lui ? Sur ça, la Gemara n'a rien à redire. À partir du moment où il peut s'en rendre propriétaire, où il a les capacités pour, il n'y a rien qui l'empêche effectivement d'effectuer son désir d'appropriation. Il n'y a rien qui l'empêche. On a resserré avec PA, parce que PA, il faut des caractéristiques pour pouvoir se rendre propriétaire. Mais en tout cas, il peut le faire. Donc maintenant, je reprends, parce qu'on va rentrer maintenant dans le verset lui-même, qui est effectivement la clé de cette discussion dans la Gemara. D'après l'avis de Oula, ce n'est qu'en restant prat que je peux m'inclure dans un klal. D'après l'avis de Rav Nachman, c'est soit je m'annule en tant que prat et je peux donner au klal, mais tant que je suis un prat, je peux pas m'annuler. Il n'y a pas de migo possible. C'est ça qui est intéressant, ce migo. Le Zohar qui va lire notre verset va pas aller beaucoup plus loin que la Gemara. Il dit, si le verset dit deux fois Avadim, c'est parce qu'il y a deux degrés de Eved. Il y a un degré de Evel Klali et un degré de Eved Prati. c'est-à-dire être serviteur. Je laisse de côté, on verra peut-être plus tard des questions techniques, à savoir est-ce qu'un sahir, on en a discuté beaucoup cet après-midi avec Rav Lévi, est-ce qu'un employé, pendant le temps où il est employé, il est considéré aussi comme éved? En fin de compte, ce n'est que parce qu'il a la possibilité à chaque moment de ne plus l'être qu'il n'est pas éved. Et donc le Zohar dit, il y a deux fois Eved dans le verset. Une fois qui est liée à Li, parce que c'est comme Vaikrou Li Teruma, ils prendront pour moi une Teruma. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on travaille directement pour Dieu. Et ce degré-là, il s'appelle Ben, c'est un fils. Et il y a un deuxième degré de Eved qui s'appelle Eved. Simplement, c'est que ce verset-là qui dit « Les enfants d'Israël sont mes serviteurs », il est tout de suite mis en regard avec un autre verset qui dit que les enfants que les Bnei Israël sont mes enfants. Donc, est-ce qu'ils sont enfants ou est-ce qu'ils sont serviteurs? Le Zohar remet les choses directement d'aplomb en disant que même Ben, ça s'appelle aussi ses serviteurs. Donc, quoi qu'il arrive, on est assujetti à un travail par rapport à Dieu. Maintenant, la différence, c'est que celui qui est Ben, il travaille, il est Eved, mais il est Eved dans des caractéristiques qui sont beaucoup plus personnelles et beaucoup plus propres. Comme dit le Zohar, il est capable d'aller dans tous les coins et de chercher des choses. Le Eved, c'est uniquement Klali. C'est simplement en général. Ce qui est en gros... Ce qu'on a vu dans cette Gemara, le fait d'accepter de m'approprier quelque chose pour quelqu'un d'autre, ça me rend effectivement élément d'une chaîne où l'appropriation va avoir tout un tas de relais. Parce que c'est pas pour rien qu'on s'approprie quelque chose. C'est pas pour rien. On s'approprie quelque chose parce qu'on veut le faire rentrer chez nous. Parce qu'il veut qu'il nous appartienne. On veut qu'il rentre dans notre domaine. On veut donc changer le monde. C'est même compliqué, Shabbat, de s'approprier quelque chose. C'est presque considéré comme quelque chose qui est assour Shabbat, de s'approprier quelque chose. Je peux pas faire ça. C'est considéré comme un travail, l'appropriation. Parce que c'est un changement du monde. Donc ce changement du monde que j'opère, c'est vrai que je l'opère pour le compte de Dieu. C'est ça que nous sommes les avadim de Dieu. Parce que Dieu aussi intéresse que le monde soit meilleur. Mais je l'approprie pour moi, dans mon domaine, à moi. C'est ça, zachan nafshe, comme on dit à la Gemara. C'est ça que c'est moi-même, c'est pour mon effet que je le fais. Ah, et le fait que je puisse le faire, ça me permet aussi de le faire pour quelqu'un d'autre. Donc c'est effectivement comme ça que va se jouer l'intermédiaire. Donc toute la question maintenant, pour revenir, si vous voulez, à la Mishnah simplement, et après, si vous voulez, on posera des questions et ça me permettra peut-être d'aller plus loin dans ce que j'ai préparé, c'est que la parole du cavalier, si il lui dit « donne-moi », ça n'englobe pas encore la volonté du piéton. Ce n'est qu'à partir du moment où il donnera au piéton qu'effectivement, ça sera inclus dans sa volonté à lui. Tant qu'il ne lui a pas donné, le piéton, il existe encore comme un individu particulier, comme une subjectivité qui peut à n'importe quel moment se rétracter. Donc même Rav Nachman, il serait d'accord, et c'est ça le chidush, même Rav Nachman serait d'accord que dans le cas où il y aurait dit « Zachali », prends-le pour moi, ça serait assimilé au cas de l'ouvrier qui travaille pour le patron, et à ce moment-là, il pourrait le prendre pour le patron. Ce n'est que parce qu'il lui a dit « Tenali » qu'effectivement, l'acte d'appropriation ne marche pas. Parce qu'à ce moment-là, il fonctionne encore comme une subjectivité qui peut à n'importe quel moment se rétracter. Donc, si on veut dire un peu plus métaphysiquement, il y a deux manières de s'approprier le monde. Soit directement, soit indirectement. Le degré d'appropriation directe, ce que le Zohar appelle ben, il ne peut marcher que si effectivement, du coup, je peux à n'importe quel moment faire sauter tous les intermédiaires possibles, tous les patrons possibles, en disant « moi, je travaille pour Dieu ». Donc, je m'approprie pour lui. Le Zohar dira simplement que ce Eved-là, comme il remet tout au Adon, au maître du monde, il devient lui-même Adon. Il devient lui-même le maître. C'est ça qu'on a vu. Maintenant, il y a un deuxième degré où effectivement, j'accepte que je travaille pour Dieu, mais cette chose-là, je ne la comprends qu'à travers des intermédiaires. Et cette chose-là, effectivement, ce travail-là, il est possible dans une chaîne d'appropriation successive. Ce degré, il est plus bas. Sans rentrer dans des choses très techniques, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus avant qu'il y ait des questions, ça correspond en fin de compte à deux notions kabbalistiques qui en fin de compte posent la même question. C'est celle du Igoul et du Yosher. Le Yosher, c'est la particularité de directement s'occuper des choses dans le Prat. Le Igoul, c'est la possibilité, le cercle, pardon, le Igoul, c'est la possibilité de diriger le monde à travers des cercles successifs. Maintenant, est-ce que le Igoul est capable de diriger le Yosher ou le Yosher est capable de diriger le Igoul? C'est une question débattue dans le Harizal. Mais ces deux degrés existent effectivement. Ou d'ailleurs même, d'une autre manière, c'est la même distinction qu'il y a entre le Or Yachar et le Or Choser. Parce que le Or Yachar, c'est la lumière qui vient du haut vers le bas. C'est celle qui, en fin de compte, nous inclut tous. Et donc, dans ce point de vue-là, je suis une chaîne dans laquelle, effectivement, j'ai une volonté, mais ma volonté est prise dans d'autres volontés. Maintenant, le Or Choser, c'est ce que moi, je fais remonter. C'est mon acte d'appropriation à moi direct. Parce que c'est pas pour rien qu'il a vu cette chose-là. C'est pas pour rien qu'il a dit « je la veux ». C'est pas pour rien que l'autre, il lui a montré. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est effectivement de cette chose-là. J'en ai terminé pour la première partie et je pense que vos questions vont m'aider à plus développer.
Surtout que je remarque dans la dernière partie, si j'ai bien compris, c'est que le Or Yachar,
ah non.
C'est
le Or Yachar et les Beigoul.
C'est ça, c'est intéressant parce qu'en général, on a cette idée que le Or Yachar est le Yosher. Et là, on a fini par comprendre que c'est plutôt le Or Yachar et Beigoul et que le Or Choser. C'est intéressant.
C'est deux points de vue différents, c'est deux manières de voir les choses. Ah, je vous ai rendu sans voix. Pas possible, ça. Alors, j'ai supposé que tout le monde n'avait pas fait la Gemara, donc c'est pour ça que j'ai essayé d'être synthétique. Mais après, on peut rentrer dans des choses plus... Ah.
Tout ce rapport à l'appropriation, ça veut dire qu'il y a une liberté dans le travail. Donc ça veut dire que dans le contrat de travail, il y a une liberté pour l'ouvrier de l'accepter ou de refuser.
Alors, c'est ça qu'on a vu. C'est que ce qui permet à l'ouvrier de défaire les liens qu'il a avec son patron, c'est le fait qu'il peut à n'importe quel moment invoquer le fait qu'il a un patron plus grand. Ce qui ne va pas non plus quand même lui faire le dégager complètement des responsabilités qu'il a du patron. C'est-à-dire concrètement, si le patron l'a embauché le matin à 10 euros de l'heure et qu'à midi il dit je veux plus travailler, c'est l'une des questions à l'Arik connexe à cette Gemara, le patron va être obligé de prendre un employé pour les autres heures. Et il se trouve qu'entre-temps, le coût de la main-d'œuvre est augmenté ou baissé. Donc concrètement, il va quand même devoir payer des conséquences. Mais il a à n'importe quel moment la possibilité de se dégager de cette chose-là. Pourquoi ? Parce qu'il peut invoquer le fait que l'appropriation qu'il a fait, il l'a fait pour un but plus haut.
Donc quelle est la place du contrat ? C'est aussi ça que ça pose.
Eh bien, le contrat, c'est, alors de ce point de vue-là, c'est justement la possibilité que j'ai que moi, en tant que subjectivité, d'appartenir à une collectivité qui englobe le fruit de mon travail.
Ça veut dire que le contrat inter-individuel entre un patron et son ouvrier, dit patron et ouvrier, il n'existe pas.
Pourquoi ?
Parce que tu peux le rompre à n'importe quel moment.
Non mais... Oui, non mais attends, je peux le rompre à n'importe quel moment, mais attention, mais je vais quand même pas me dégager des responsabilités qui font que je vais effectivement payer des conséquences pour ça. Bon, ça effectivement, c'est, oui. Parce qu'en fin de compte, ce verset-là, qui est en fin de compte un verset affirmatif, il est entendu comme un verset contraignant. Parce que vous êtes mes serviteurs, vous n'avez pas le droit de vous assujettir. Donc maintenant, tout contrat de travail qui serait trop assujettissant, enfin si ça se dit, je peux à n'importe quel moment le rompre. Ah bien, c'est justement pour ça que le cas inverse, c'est celui qui transgresse ce verset, c'est celui qui se rend esclave.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde moderne,
on a vu avec Rav Levi cet après-midi des éléments dans la halakha hein, qui définissent ce que c'est que ce statut de Evet. Son statut de Evet fait que finalement, il n'a aucune autonomie propre quant à sa vie et quant donc à ses propriétés d'appropriation. Autrement dit, quelqu'un qui travaille, qui dépendrait de son gîte, de son couvert, de toute sa subsistance du patron et qui lui vendrait cette chose-là, il est considéré comme dans une certaine partie comme esclave et donc il transgressait cette chose-là. Donc, mais le Eved, celui qui vend, le Eved, pour revenir à Marx, il vend pas sa force de travail, dit Tosfot, il vend son corps. Ah non, c'est pas pareil. Parce que pour nous, effectivement, l'ouvrier, qu'est-ce qu'il fait ? En fin de compte, si on peut dire, il vend son pouvoir d'appropriation. Il l'annule. Il annule son pouvoir d'appropriation. Son pouvoir d'appropriation, effectivement, est annulé. Ce qui n'empêche pas que lui aussi, donc, quand on regarde les choses, le fait qu'il change le monde à travers l'appropriation du patron ne fait pas aussi qu'il en a une part. Mais cette part, elle est battelle. Cette part, elle est battue dans le clal. Non, pas Eved.
Je parle d'un Eved.
Ah non.
Si un Eved trouve quelque chose dans la route, ça lui appartient pas, ça appartient à
son... Ah, le Eved, il a vendu tous ses droits.
Même quelque chose qu'il trouve dans la route.
Il a vendu tous ses droits. Rien. Justement, c'est ça sa définition. C'est qu'il ne peut plus rien s'approprier. Donc, c'est-à-dire que... Il est tellement battel qu'il n'existe plus. C'est pour ça que justement, il a transgressé ce verset, puisque le fait d'être évêque de Dieu, ça nécessite qu'à un moment, tu existes en tant que prêtre. qu'à un moment tu existes toi-même en tant que prat à un moment donné.
Oui. Dans ce cas-là, même dans ce cas-là, il n'a pas même pas la possibilité de s'approprier quoi que ce soit.
Mais peut-être que son tikkun, peut-être que son tikkun y passe par là, s'il n'a pas d'autre choix. Mais effectivement.
Techniquement, il ne peut pas s'approprier quoi.
Ouais.
Et c'était le cas des Hébreux en Égypte, justement, c'est quelque chose de non-appropriation avant de sortir d'Égypte.
Le verset, il dit oui. C'est-à-dire, quand on analyse le verset, il dit parce que. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Autrement dit, je vous ai détaché de ce rapport-là à l'appropriation. Maintenant, en étant mes serviteurs, vous avez un rapport à l'appropriation qui va être complètement différent.
Oui, justement, on s'est approprié toutes les richesses.
Quoi ?
On s'est approprié toutes les richesses.
Exactement, ouais. On s'est approprié toutes les richesses d'Égypte. Et alors, juste parce que c'est encore chaud. Dans le Dayenu, d'accord, dans le Dayenu, c'est pour ceux qui se rappellent le Dayenu, il est marqué Elou au Tianu Mitzrayim à Sabem Shefatig à Rag Bechoreem et Natan Nanu et Mamonam, ça vient en dernier. Le fait de s'être approprié l'Égypte, ça vient bien après la mort des premiers-nés et bien après effectivement le fait d'avoir effectivement éliminé leur divinité. Et les commentateurs pointus notent bien que ce degré d'appropriation, il est effectivement le plus haut. Mais ça, c'est une conséquence du fait d'être sorti d'Égypte. C'est qu'on a effectivement. Parce que toute appropriation.
C'était uniquement pour la Vodat.
Mais toute appropriation. Si maintenant on dit que toute appropriation dépend du fait qu'on est avadim de Dieu, cette appropriation-là, elle est effectivement au service de quelque chose qui va rendre cette appropriation sensée, on va dire. Sans ça, effectivement, elle est. Mais ça. C'est...
Ce patron Benoni que tu cites comme intermédiaire, lui-même aussi, il est Evel.
Ah ben oui. Mais ça y est, pas de problème. Lui-même aussi, il est censé appliquer les lois de la Torah et effectivement comprendre que lui aussi, il est Evel. Il est lui aussi Evel d'un patron supérieur. Ben justement, par le contrat qu'il va avoir avec quelqu'un d'autre qui est en bas de la chaîne, qui est effectivement l'ouvrier. Si tu veux, quand le type il est sur le cheval, pour simplifier, et qu'il voit le piéton, et qu'il lui dit « ramène-moi cette chose-là », il se constitue en tant que patron, d'ailleurs c'est ça la question de la Mishnah. Il se constitue lui-même en tant que patron. Et donc il prend l'ouvrier, il prend le piéton en disant « maintenant tu vas travailler pour moi ». Ils ont le même statut, évidemment. C'est-à-dire les deux ont le même rapport d'appropriation possible.
À quel moment il y en a un qui devient le patron ? Quel est l'acte qui fait que, et c'est le fait d'obéir à la Torah, est-ce que c'est le fait de voir ?
Ah non, mais...
Sa parole. Je suis le cavalier au patron pour me plaire.
Oui.
Le piéton, ouvrier pour me plaire. Ça pose ça comme a priori. Comment ça ne comprend pas ça ?
Parce qu'il lui demande de... Parce qu'il lui demande de s'approprier un objet pour lui. Donc il lui demande que l'appropriation que cet individu fasse rentre effectivement dans sa propriété à lui.
Déjà, s'il a un cheval, il est riche.
Non, mais ça peu importe. Mais donc du coup. Ah, c'est-à-dire.
Non,
je comprends ce qu'il dirait à Lévis. C'est-à-dire qu'on aurait pu comprendre que c'est un rapport transitif, à savoir qu'ils sont égaux. Qu'ils sont égaux. Mais en fin de compte, non. Parce qu'il y en a un qui va être propriétaire et l'autre non. Et d'ailleurs, c'est ça la question. C'est qui veut être propriétaire à la place de l'autre. Donc, qui veut en fin de compte prendre cet objet pour le transférer dans la propriété de l'autre.
Mais tu as dit quelque chose d'intéressant en disant que le fait de soulever l'objet valait
acte d'acquisition.
Ouais.
Oui.
Alors, sur quoi tu te bases pour ça ?
Bon, ça, c'est l'une des règles communes des actes d'appropriation dans l'Agmara et dans la Halakha. En compte, c'est que il le lève de Arba Amot, il le fait rentrer dans son reshut, enfin, il le fait rentrer dans son domaine à lui. C'est l'acte d'acquisition. Quoi ? C'est-à-dire que tu l'as fait passer du... Exactement. Tu l'as fait passer du domaine public dans ton domaine particulier. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que la suite de cette Gemara va effectivement penser l'appropriation comme simplement le fait que ça soit dans un territoire, sans le fait de lever la chose. Mais Rav Lévi, je comprends bien ce que vous voulez dire. Vous voulez penser simplement, c'est rend moins service. Donc c'est transitif. Mais on a bien vu que quand il lui dit Nali, c'est effectivement une parole dans laquelle l'autre est englobé, puisque la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'il peut se défaire de cette parole-là ? C'est pas transitif. Et Zahali. La Mishnah, donc la vie de Rashi qui est effectivement. L'avis de la Halakha là-dessus, c'est que quand il lui dit « donne-moi », il n'a pas désigné le piéton comme étant son extension, comme étant son chaliar. À partir du moment où il l'aura dans la main, effectivement... Donc exactement. Et donc je suis libre ou pas de lui donner, et je suis libre à n'importe quel moment de dire « je me l'approprie ». Donc c'est-à-dire de casser le contrat. Exactement. Mais si maintenant il lui dit Zachali, à ce moment-là, dès que l'autre va commencer à se mouvoir sans même rien dire, parce que le fait qu'il dise rien, ça veut dire qu'il accepte le contrat, il se définit lui-même comme étant l'extension, enfin le bras du cavalier, comme étant le bras du cavalier qui va prendre l'objet pour lui. Et là, effectivement, même d'après l'avis de Rav Nachman, si j'ai bien compris, à ce moment-là, il peut le faire pour lui parce qu'il n'a plus d'avis lui-même. Comme il dit Rashi, c'est à savoir à partir de quel moment va commencer la shliroute.
D'accord, c'est pas. Mais c'est par le fait d'employer ce terme-là, c'est performatif, ça veut dire que ce terme vaut contrat.
Ce terme vaut contrat, tant par le fait que l'autre effectivement accepte et ne dise rien. Donc dans le Zahali, quand il lui dit prends pour moi, à partir du moment où l'autre va se mettre en mouvement et prendre l'objet, effectivement, il s'en est rendu propriétaire pour le cavalier. Alors, c'est ça la question maintenant. Oui, mais pas d'après Rav Nachman. Parce que Rav Nachman, il ne veut pas accepter le migo. Et alors à quel... Et donc d'après Rav Nachman, s'il lui dit Zachali, il peut pas le prendre pour lui ? Et pourquoi est-ce qu'il va pas dire que c'est comme son chaliar et c'est que c'est comme Yad Baal HaBayit ? Il n'est pas pour elle, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas payé ? Bon, ça, effectivement, je ne sais pas.
Juste pour revenir à la question du départ, ça définit quoi comme rapport entre un patron et un travailleur, dans la part d'appropriation, mais l'appropriation, elle débouche sur un truc de la propriété.
Bien sûr. On parle de ça, oui, évidemment qu'on parle de la propriété. Oui.
Donc on est bien, là il y a une vraie discussion entre où là je vais trouver une vision capitaliste du monde et l'autre une vision plus marxiste.
Pas du tout, parce que la seule conclusion qu'a le marxisme sur la propriété, ouais, c'était comme effectivement tout travail mène effectivement à une aliénation, donc il faut surtout abolir la propriété.
Ben oui.
Oui, mais dans aucun des cas ici. T'abolis la propriété. Dans tous les cas.
D'après effectivement Rav Nachman, à n'importe quel moment, moi, je peux devenir propriétaire. Même en étant assujetti par les lois du travail, je peux effectivement, même si je me rends propriétaire pour le patron, je peux enlever ça. Et même quand quelqu'un me demande, je peux toujours le faire. Et même d'après l'avis, si j'ai bien compris, et même d'après effectivement l'autre avis, à n'importe quel moment, je peux devenir propriétaire. J'ai pas compris, encore une fois.
Ce qu'il dit, c'est que c'est le fait. Est-ce que c'est la propriété qui te rend sujet? C'est la propriété qui te rend sujet?
La propriété.
Le fait d'accéder à la propriété, c'est ça qui va te rendre sujet.
Bah, j'existe avant ça quand même.
Non, parce que c'était le comparatif par rapport à Abel, par rapport à l'esclave. Justement, n'est pas sujet parce qu'il est Abel.
Non, tu confonds, c'est une conséquence, c'est pas la cause.
D'accord, c'est la conséquence.
Par rapport à ça, je te pose une question. Tu as dit que celui qui se sert de sa capacité personnelle d'acquisition est considéré comme libre parce qu'il met tout au service d'HM. En quoi le fait de faire preuve d'autonomie par rapport à toutes les formes d'adulte, ça nous place de fait dans une relation d'adulte directe par rapport à HM, de liberté par rapport à...
Répète. Oui.
Est considéré comme libre parce qu'il met tout au service de Dieu.
Si il décide effectivement de le faire sans aucun intermédiaire.
D'accord. En quoi le fait de faire preuve d'autonomie par rapport à toute forme d'adulte me place directement dans cette relation intime d'adulte à HM?
Ah, ça c'est facile ça. Parce que le pasouk qui dit qu'il libne et Israël, c'est comme Veikrou li Teruma. Comment est-ce que tu peux prendre une terouma pour Dieu? C'est effectivement le fait d'être capable de prélever quelque chose au nom de Dieu qui fait qu'effectivement, toi, tu existes maintenant dans cette chaîne-là. C'est ça qui te rend libre. Tant que tu n'as pas fait ce travail-là, effectivement, il n'y a rien qui se passe. C'est ça, effectivement, ta liberté. Le vikrouli terouma. L'ishmi, comment est-ce que je peux prendre quelque chose au nom de Dieu? Tout lui appartient. Donc c'est là effectivement que j'exerce ma liberté. Ma liberté, c'est effectivement d'être capable d'avoir un rôle dans la création, si tu veux. C'est parce que tu es Eved Hashem que tu peux faire ça. C'est l'inverse. Parce que vous êtes mes avadim, qu'effectivement je peux à n'importe quel moment rompre le contrat avec le patron et sortir de la chaîne d'appropriation. Tu choisis pas. C'est parce qu'effectivement tu l'es quoi qu'il arrive. Alors maintenant, c'est ça que dit le Zohar. Je peux effectivement le faire de façon inconsciente ou consciente. Je suis éved parce que j'ai pas eu le choix d'être éved. Donc j'ai été choisi par Dieu pour être son éved, ou je peux maintenant pleinement l'assumer. Elle est différente. Mais ce que veut dire le Zohar, c'est qu'à partir du moment où j'ai bien compris le but de l'appropriation, effectivement, je peux être capable d'aller beaucoup plus loin dans les degrés d'appropriation que si maintenant je la rêve Beklalout. Et non, parce que... Mais tu veux abolir la propriété. C'est dans la paracha justement où il y a ce verset là pour dire effectivement attention, l'appropriation que vous enfin, elle correspond à effectivement quelqu'un qui est le propriétaire de tout.
Il y a une chose que
et T'es pas propriétaire, mais c'est par toi qu'effectivement quelque chose va effectivement passer d'un domaine à un autre domaine.
Justement, enfin, ce que moi j'ai reçu, mon rôle c'est de le redonner, de le redistribuer finalement. Ça s'arrête là.
Mais à ce moment-là, pourquoi le piéton il dit moi je le veux? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable d'être complètement battel par rapport à la volonté du cavalier? Pourquoi est-ce qu'il dit moi je le veux cette chose-là? Pourquoi il dit moi je Anis Akhitiba, moi je la veux, elle est à moi.
Parce que justement, il fait partie de ce deuxième cas de figure dont
il y a pas. Oui, mais à un moment, mais ça
je. L'objet pour lui et pas pour oui. Pas pour justement pas pour le clan.
Mais il veut pas que ça il...
ouais. c'est de l'égoïsme simplement, enfin,
c'est... de l'égoïsme entre l'égoïsme mais encore une fois c'est parce qu'il peut, d'après l'un des avis, c'est parce qu'il peut se l'approprier lui qu'il peut l'approprier à quelqu'un d'autre. S'il ne pouvait pas se l'approprier lui, il ne pourrait pas l'approprier à quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il existe en tant que propriétaire potentiel qu'il peut rendre le tiers propriétaire. Alors c'est ça l'histoire, c'est qu'effectivement c'est soit c'est transitif, soit c'est direct. Quoi? Non, convoiter c'est autre chose. Parce qu'à partir du moment... Ah non, alors c'est autre chose. Parce qu'à partir du moment où l'autre, il est zoré, parce que... Alors, pour l'instant, quand il lui dit zorébi, zahabi, que l'autre, il lui prend, il dit c'est à moi, ça s'appelle du gazelle, ça, maintenant. Ça s'appelle du vol. Ah, ça s'appelle du vol. Si maintenant, le cavalier, il dit au piéton, zahéli, tu vas le prendre pour moi, l'autre, il le prend et il dit il est à moi, bah, du coup, la Mishnah commence même pas. Ça s'appelle du gazelle. Ça veut dire que tu as des propriétés, tu as pris la propriété de quelqu'un qui ne t'appartient pas.
Pourtant, on sait qu'un chalier, ça n'a rien à voir, mais quelqu'un qui veut se marier, tu peux pas, c'est une autre marraine, quelqu'un qui veut se marier, et tu ne peux pas se rendre sur le lieu de son mariage.
Oui.
Tu peux nommer un chalier qui va acquérir, entre guillemets, les coups pour lui, et on sait que la marraine prévoit qu'à un moment donné, le chalier, il peut très bien trouver la fille très jolie et dire je la prends pour moi. C'est un risque.
Mais à ce moment-là, parce qu'il va... Alors, je ne me rappelle plus comment ça fonctionne, mais à ce moment-là, il doit se dessaisir de sa shlichut. Il ne peut plus le faire en tant que chaliar. Il le fera pour lui. Il ne peut plus le faire en tant que chaliar. S'il est chaliar, il est effectivement ce prat inclus dans le klal. Il faut qu'il redevienne maintenant lui-même un prat n'agissant pas au nom d'un klal. Effectivement, à ce moment-là, il peut faire cette chose-là. D'ailleurs, dans la discussion intermédiaire que j'ai sautée dans la Gemara, c'est le débiteur qui va venir effectivement prendre des choses au nom d'un autre débiteur. Et à ce moment-là, ça, il peut pas, parce que lui-même, il est déjà pris par d'autres liens qui font qu'effectivement, il peut pas agir en tant que chaliar. Ça, effectivement. Tout à fait.
Et à un moment, celui qui la ramasse, si deux personnes en arrivent à avoir une marquette sur pourquoi, qui, etc., c'est là que déjà le problème du travail est engagé. Donc finalement, cette chose, au moment de la soulever, il y a déjà tout le problème du travail. Au moment même de ramasser quelque chose que tu n'as même pas toi-même mis là.
Oui, mais pour une raison simple, c'est que le moteur du travail, c'est le fait que le monde ne te plaît pas tel qu'il est. Que finalement,
c'est... Le monde, puisque tu tombes sur le messie,
ah non, C'est que si le monde...
À partir du moment où tu crées, tu vas créer un territoire.
Non, parce que si le monde était parfait tel qu'il était, tu dirais, j'ai pas besoin de ça. Exactement. C'est le fait, c'est le désir qui fait que maintenant tu veux que cette chose change de domaine, donc t'appartienne, qui fait qu'effectivement tu rentres effectivement dans une transformation du monde qui passe par l'appropriation. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de voir ça parce que, mais c'était de savoir comment ça fonctionnait Shabbat. Comment est-ce que Shabbat c'est effectivement interdit de s'approprier quelque chose? Oui, mais si tu le trouves chez toi. Bon, ça c'est des trucs techniques que j'ai pas vu. Si par exemple tu le trouves chez toi, dans ton rachut à toi. Oui, ou si on te le donne. Mais ça c'est dans le Shulchan Aruch, ça, je crois qu'il y a un truc sur le cadeau. Mais si tu veux travailler, c'est changer le monde. Et tu changes le monde parce qu'il te convient pas tel qu'il est. Et donc, tu veux, en fin de compte, modifier les frontières du monde.
C'est quoi le bénéfice alors, du travail? Est-ce que ça, automatiquement, c'est un bénéfice au bénéfice personnel? C'est un bénéfice pour Dieu qui est vivre local? Automatiquement, le fait de t'approprier la chose, il y a un bénéfice qui est pour toi, mais qui est automatiquement aussi pour Dieu et pour moi.
Ben, c'est pas la même chose que... C'est pas la même chose que si tu trouves un diamant, il serve à la construction d'une synagogue ou d'un temple idolâtre, non? C'est pas pareil, non? Oui, bah, c'est pour ça que bien avait dit, c'est que le grand principe, c'est qu'effectivement, on est Eved Hachem. C'est ça qui permet finalement toute appropriation possible. Je connais pas la législation du travail, mais oui, quelque part, bien sûr. Mais c'est ça la base du travail, c'est qu'effectivement, je vais changer le monde. Je vais donner au monde un ordre différent que ce qu'il était avant que j'y sois. La force du Shabbat, c'est que justement, tu ne changes pas le monde. L'arrêt du travail...
Il n'y a pas un hyper HM.
Oui, mais c'est un autre degré. Ça,
mais
ça,
vous avez quand même dit que dans ce travail, il y a un passage d'un train d'un
clave. Oui. C'est la question de...
Cette notion, on en a un petit peu parlé, mais je comprends. Pourquoi ça parle dans ce sens-là?
C'est comme ça que moi j'ai vu. Que j'ai...
Très, ça s'appelle très important, du sens de la notion de travail. S'il y a cette notion de changement du monde, mais faire passer particulièrement d'un pratique à un plan. C'est une intrigue, cette terminologie.
Mais c'est parce que dans la Mishnah, on était confronté à un système à trois éléments. On a l'objet, le destinataire et celui qui s'en rend possesseur. Celui qui s'en rend possesseur. Quand j'ai suivi cette Mishnah, je vois bien qu'effectivement, à chaque fois, on considère cet individu par rapport à un élément pour le compte duquel il va se rendre propriétaire. Et quand bien même il se défait de tout ça, il ne peut se défaire que par rapport effectivement à quelqu'un d'autre qui effectivement est son klal. Donc quoi qu'il arrive, c'est toujours par rapport à un élément plus haut. Si klal, ça vous embête, c'est en fin de compte, on n'a qu'à dire supérieur. Mais parce qu'il décide justement de ne pas l'acquérir. Il décide de l'acquérir pour l'autre. Ça veut dire donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être mis de battle sa volonté d'acquisition. Ou alors il. Parce que si. Alors quoi? Il exprime sa capacité. Mais c'est ça qu'on a voulu voir. C'est ça effectivement le trémigo lo amrinan. C'est que ça a des limites. Quand le hachir, il a dit, quand on a évoqué la possibilité que le hachir pouvait effectivement se déposséder pour devenir pauvre et étant pauvre potentiellement effectivement donner à l'autre, ça on a dit trémigo lo amrinan. Ça effectivement ça peut pas aller jusque là. Il ne peut pas s'annuler jusqu'à ce point-là. Parce que alors, si effectivement, vous voyez bien quand même, Rav Lévi, qu'il y a un conflit. Parce que quand l'autre il dit « prends pour moi » et il dit « je prends », l'autre il n'est quand même pas content. Il espérait quoi? Il espérait qu'il allait effectivement lui transmettre l'objet et qu'il ne soit donc qu'un transmetteur. Ah, mais alors donc, s'il exerce son autonomie, il exerce son autonomie en refusant son pouvoir d'asservissement. Si vous voulez, Rav Lévi, dans la Gemara, c'est toute la discussion qu'il y a sur le Tehillah. Exactement, c'est toute la discussion qu'il y a sur le Tehillah. Le Tehillah, ça veut dire je suis numéro 1, je suis avant toi maintenant. Quand on a dit que Tehillah des Sefas, c'était pour expliquer Tehillah des Rechas, c'est ça qu'on veut dire. C'est qu'effectivement, je peux à n'importe quel moment me dire moi je suis Rishon. Donc si je suis Rishon, ça veut dire que quand j'ai pas été, j'étais effectivement mis de battel. Après, si vous me dites que naturellement l'homme est fait pour effectivement transmettre sa propriété à quelqu'un d'autre, mais encore une fois, il faut qu'il. C'est ça qui m'a posé problème dans cette Gemara. C'est comment comprendre cette notion, migo des achés les nafchés, des achés les chévrés. Que puisqu'il peut s'en rendre propriétaire, alors il le transmet à l'autre. Alors c'est quoi ce migo? C'est une annulation. Mais c'est une annulation dans laquelle qui ne peut marcher que parce que lui, il peut s'en rendre propriétaire. Non, parce que le cadeau, c'est simple. Non, parce que le cadeau, le cadeau, c'est simple. Le cadeau, c'est l'objet m'appartient et après, je le donne. Ça, sur ça, il n'y a pas de marloquette dans la Gemara. Ça, c'est clair. Mais non! Pas du tout. C'est que je me rends propriétaire, moi, de l'objet pour un tiers. C'est ça le truc. C'est que c'est instantané, si on veut. C'est pas en deux temps. En deux temps, il n'y a pas de problème. Je me rends propriétaire de l'objet, alors à ce moment-là, je lui donne. Au moment où il le lève pour l'autre. Au moment où il lève l'objet, au moment où il fait Agba pour l'autre, même si l'autre n'est pas au courant. Ça, c'est pas grave. Donc, il exerce sa subjectivité en l'annulant pour quelqu'un d'autre. Ouais. Oui. Alors,
c'est quoi les deux visions d'un propriété qui s'affrontent?
Eh ben, c'est simple. D'après Rav Nachman, c'est tant que tu es un prat, tu ne peux pas acquérir pour quelqu'un d'autre. Si maintenant tu deviens salarié, à ce moment-là, tu annules ton prat pour quelqu'un d'autre, et là, effectivement,
D'ailleurs, la propriété lui appartient. D'après Oula, et qui est effectivement l'Acha, je peux effectivement me rendre propriétaire pour quelqu'un d'autre. Et donc effectivement, je peux, c'est ça. Effectivement, je peux me rendre. On dit migo, donc je peux me rendre propriétaire pour l'autre. Hein? Non, pas de gérant. Gérant, c'est autre chose. Gérant. Gérant, c'est, je veux dire, le commerce.
Non, mais tu peux gérer la propriété d'un autre, c'est ça, ou pas?
Oui.
Comment ça se passe dans l'exemple suivant? Quelqu'un qui, tous les matins, il va étudier, il arrive en retard à son travail. Il arrive à 2 heures de retard, et son patron lui dit, voilà, t'as 2 heures de retard, et tout quoi. Imaginons le salarié, il lui dit, t'existe pas, je suis.
Bon, ça, il faut poser la question à des techniciens de la race. Ça dépend du type de contrat qu'il a, ça dépend ça.
Alors, le fait de s'en propriétaire pour quelqu'un d'autre, ça peut se faire que dans un moment donné.
Dépend de la Torah, dans la Torah.
Quoi? Encore une fois, mais c'est vrai que c'est une soumission, mais c'est une soumission dans laquelle tu affirmes ta subjectivité. Migo des achal et nafshé. Puisque je peux l'acquérir pour moi, je l'acquiers pour l'autre. C'est le cas du hachir. Le hachir, il ne peut pas prendre la PA pour le hani, à moins de considérer maintenant deux migo successifs. C'est que le travail qu'on effectue on l'effectue directement pour Dieu. Ça passe pas par des intermédiaires dans un point de vue encore plus général. Si tu veux, tu peux dire par exemple le fait que si j'irrigue l'Afrique ou si je fais des choses qui vont transformer le monde dans un sens qui va aider l'humanité, tant que je ne le fais pas directement pour Dieu, ça passe encore par un autre klal. Israël, c'est directement lié à Dieu. C'est ça le avadim. Vous êtes mes serviteurs à moi, vous travaillez pour moi. C'est ça le li, c'est ça le vaikrouli teruma. Déjà, on a l'obligation de, d'aider un évêque à se racheter tout court, si j'ai bien compris.
Oui, mais on sait qu'il y a une obligation spécifique. Si c'est vendu à un
vendu,
on a une obligation de
le racheter. Ah oui, là, c'est parce qu'il court un. Oui, parce que là, du coup, il court un danger en plus. Oui.
Je reste libre de mon travail, je reste complètement maître de mon travail. Et ça, je déduis du fait que je suis Eved Hashem. Quand un passeur qui a un ton de servitude, je déduis la liberté intégrale par rapport à mon travail. C'est là qu'on déduit qu'il peut rompre son contrat sans conséquence pour lui. C'est-à-dire, techniquement, même si après le patron va payer plus cher d'autres ouvriers, ce ne sera pas sur le compte du premier. Lui, il est libre de rompre sa montre. Il reste maître de sa.
Ah oui, c'est le premier. C'est le Tosfot sur ce verset là dans l'Agmara qui dit que on a le droit de devenir salarié mais pas esclave, et que celui qui devient esclave effectivement il transgresse ce verset.
Dans lequel
Parce, non mais pourquoi? C'est très simple. Parce que du coup maintenant j'effectue moi-même. Ah, mais parce que. Mais non mais pas. Mais évidemment, parce que maintenant j'effectue moi-même une vraie appropriation. Parce que l'appropriation maintenant elle est directe. C'est ça qui me permet de m'approprier la chose. C'est tout simple. Je suis en train de travailler, je ramasse des tomates et je trouve un diamant. Normalement, ce diamant, il appartient au patron. Et le prix des diamants, c'est un mois de salaire de ramasser des tomates. D'accord ? Ça dépend de la taille du diamant et des tomates. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui fait que je peux dire maintenant, je romps le contrat avec mon patron parce que je veux que maintenant ce diamant-là, il m'appartienne à moi ? Parce que tout d'un coup, le fait que je sois Eved Hachem va rendre que je peux devenir propriétaire de cette chose-là. Et donc rompre le faux contrat d'appropriation que j'avais avant par rapport à celui-là. Donc du coup, maintenant, je vais vraiment devenir Adon.
Mais alors, parce que quelqu'un
disait tout à l'heure,
il
n'y
a plus aucun contrat qui tient.
Quand est-ce qu'on devient
voleur? Ah. Ah, à partir de quel moment?
À partir du moment
où la propriété est déjà désignée pour. C'est pour ça que quand effectivement, dans le cas de la PA, celui qui ne peut pas s'en rendre propriétaire, donc celui qui est riche par exemple, il dit elle est à moi, ou même elle est pour quelqu'un d'autre, il n'a rien dit. Lo amar klum. Donc maintenant cet objet ne lui appartient pas. Maintenant à partir du moment où cet objet a déjà un propriétaire désigné, si moi je le prends, là ça s'appelle du vol.
Oui, ça c'est dans le cas d'un objet destiné, d'un PA.
Oui.
Mais dans le cadre d'un PA.
Eh ben c'est justement ça, dans le cas de Metsia, si le cavalier lui dit, donc Zahali, prends-le pour moi, et que l'autre accepte de le prendre pour lui, s'il le prend et dit, ah tu sais quoi, maintenant c'est à moi, là ça s'appelle du gazelle. Oui, ça effectivement, il pourrait. Il se dessaisit de la parole de l'autre, de Zahali, parce que quand il lui a dit Natnali, donne-moi, à n'importe quel moment, effectivement, il peut dire je suis engagé à rien et donc l'objet, je le prends pour moi. Mais si maintenant l'autre, il lui a dit Zahali.
Il ne dit rien et il le prend, il ne le donne.
Ah, mais parce qu'il a.
Alors là, il devient voleur.
Parce qu'il a accepté, effectivement, par le fait qu'il ne dise rien, il a accepté la mission qu'on lui a donnée. Et donc du coup, il a. Même s'il lui a dit Zahali? Ah d'accord. Mais quand il lui a dit Zahali, effectivement, si il prend l'objet et il s'enfuit avec, là effectivement.
Parce que dans Zahali,
de Chaliar.
Donne-le-moi, c'est juridiquement, c'est rien.
Ah, c'est ça. Donc, comme effectivement, lui, il n'a pas de statut, il peut à n'importe quel moment revendiquer son statut.
C'est pas gentil, mais bon.
Il peut à n'importe quel moment revendiquer son statut de propriétaire en disant il est à moi.
Oui, il n'a pas tellement besoin de le revendiquer. Il m'a demandé de faire quelque chose, je ne l'ai pas fait.
Et Zahali, en fin de compte, il nomme directement.
Qu'est-ce que tu appelles hein? Il appelle un shliach. Donc, le bonhomme n'est plus autonome. Il est shliach. Le problème, c'est quand quelqu'un a une shliachoute, comment est-ce qu'il s'en débarrasse? Est-ce qu'il faut qu'il dise, non, par exemple? Ou bien est-ce qu'il faut qu'il dise, avant d'arrêter de ramasser des tomates, il doit dire, bon, là, non, je ne suis plus ton shliach. Qu'il le dise, sinon. Alors, autrement, tu entres dans un migou, puisqu'il aurait pu le dire, alors il n'a pas besoin de le dire.
Sur les deux éléments, on dit quand même que Ani Rachouf Kemet, celui qui ne possède rien, il est considéré comme mort.
Économiquement mort.
Et économiquement.
Il n'était pas si mort que ça. Il n'avait rien. Et tous les gens qui ont vécu au temps d'Hillel, on ne se rappelle que d'Hillel. Donc il n'était pas si mort que ça.
Oui.
Seulement économiquement, il est mort.
C'est-à-dire...
Il ne joue aucun rôle dans la société économique. Et dans la société large, c'est sûr qu'il joue un peu grand rôle. Qu'est-ce qu'il faisait ?
Il était bûcheron.
Je ne sais pas ce qu'il faisait comme travail, mais il était fauché comme du blé.
Oui, mais alors, effectivement, mais. Ça n'empêche pas que il puisse effectuer d'autres types d'appropriation. C'est ça qu'on va sous-entendre dans la Avodat Hashem.
Tout à fait. Je...
Oui, oui.
Seulement, tu dis qu'il Rachouf Kemet, ça ne pourrait plus rien faire. Pas du tout, oui. Mais même, du point de vue, il ne joue pas de rôle dans la société.
Mais
il peut acquérir quand même.
Oui, mais il
peut... Quand une lettre, il était payé pour son travail, il acquérait bien son,
c'est ça,
son salaire.
Donc ça veut dire qu'il ne possède rien, même si effectivement ce qu'il possède, c'est simplement du savoir.
Oui, il possédait un dollar par jour, et on donnait un guigny pour
Sa
tête au Beit HaMidrash, et le reste, il vivait avec, il mangeait.
Oui, mais enfin, l'appropriation, ici on l'a vu au sens effectivement physique de la chose, quand on va dire effectivement là, vous êtes Eved Hashem, vous êtes astreint, vous êtes mes serviteurs, vous êtes aussi là pour faire mon travail. Ce travail aussi, il peut être de s'approprier d'autres éléments que des éléments simplement matériels. Alors, pour la deuxième partie de la question, ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'appropriation, elle était jamais directe. L'appropriation, elle est toujours par rapport, effectivement, à ce que j'ai appelé un klal. Quand, effectivement, on va s'approprier quelque chose, même si c'est directement, on s'approprie quelque chose par rapport à Dieu. Les lois de la Shemitah ou du Yovel montrent bien qu'effectivement, c'est l'appropriation, c'est ce qui a fait qu'on est devenu propriétaire qui fait qu'on est obligé de ne plus l'être. Il n'y a pas d'appropriation directe. Simplement, ce que j'ai appelé appropriation directe, c'est celle qui, effectivement, va éliminer tout un tas d'appropriations indirectes dans la chaîne qui font qu'effectivement, cette propriété passe par des éléments différents. Donc, ce que le Zohar appelle Ben, c'est que celui qui, effectivement... Mais le Zohar dit bien que le Ben, il est inclus dans le klal de Eved. Donc maintenant, le fils qui est inclus dans le klal, parce que finalement, on est tous Eved Hashem. Il y a celui qui est Eved, et celui qui est Eved Ben. Il dit, ce qui est plus grand dans le Ben que dans le Eved, c'est que le Ben, il peut aller chercher dans toutes les pièces. Il peut effectivement effectuer des travaux d'appropriation plus précis et plus ciblés, parce qu'effectivement, il a une idée de ce qu'on entend par l'appropriation. Si vous voulez, en termes plus kabbalistiques, c'est qu'il va être capable de déceler les netzutsot pour aller les chercher. Il va être capable effectivement de savoir que telle chose là-bas, alors il faut se l'approprier. Donc effectivement, lui, il pourra aller chercher plus loin parce qu'il va repérer les objets qui doivent être appropriés. L'autre, il est beklalout, donc effectivement, il va s'approprier des choses, mais c'est pas précis, c'est pas un prat, c'est pas complètement pratique. Mais il n'y a pas d'appropriation directe pour elle-même. Sinon, ça serait... sinon, oui, parce que du coup, il n'y a même pas de propriété pure. La propriété, elle est effectivement toujours par rapport à un autre élément. Ce qui nécessite au moins, oui, la subjectivité. S'il n'y a plus de questions, il a dit, Marie. C'est bien. Pas fait trop de bêtises.
terminera.
On va aller dans le
ça va bien.
Alors, c'est celui-ci que j'aurais voulu qu'on trouve dans les salles, si c'est possible. J'ai le prêt à la cadette, mais que j'ai terminé, bien sûr. Mais j'aimerais bien que vous me l'achetiez si vous pouvez trouver
les autres. C'est pourquoi les autres?
Je ne sais pas, il y en a plusieurs.
C'est celui-là, me dit quoi, de celui-là.
Mais je ne connais pas, je ne sais pas combien il peut y en avoir, parce qu'apparemment, il doit en avoir au moins, il doit en avoir plusieurs. Enfin, peut-être pas tous les autres, mais au moins, est-ce que vous pouvez me donner un peu de temps? Parce que c'est intéressant, je me dis que dans le premier, c'est sorti très bien.
Arrêtez, non ?